Chapitre 131. Fin de l'histoire d'une naïade et d'une dryade. Phyllis, dit Saint-Aignan en jetant un coup d'œil provocateur à Montalais, à peu près comme fait dans un assaut un maître d'armes qui invite un rival digne de lui à se mettre en garde, Phyllis n'est ni brune ni blonde, ni grande ni petite, ni froide ni exaltée. Elle est, toute bergère qu'elle est, spirituelle comme une princesse et coquette comme un démon. Sa vue est excellente. Tout ce qu'embrasse sa vue, son cœur le désire. C'est comme un oiseau qui, gazouillant toujours, tantôt rase l'herbe, tantôt s'enlève, voletant à la poursuite d'un papillon, tantôt se perche au plus haut d'un arbre, et, de là, défie tous les oiseleurs, ou de venir le prendre, ou de le faire tomber dans leur filet. Le portrait était si ressemblant que tous les yeux se tournèrent sur Montalais, qui, l'œil éveillé, le nez au vent, écoutait M. de Saint-Aignan comme s'il était question d'une personne qui lui fût tout à fait étrangère. « Est-ce tout, monsieur de Saint-Aignan ? » demanda la princesse. « Oh, votre Altesse royale, le portrait n'est qu'esquissé, et il y aurait bien d'autres choses à dire. Mais je crains de lasser la patience de votre Altesse ou de blesser la modestie de la bergère, de sorte que je passe à sa compagne, Amaryllis. » « C'est cela, dit madame. Passez à Amaryllis, monsieur de Saint-Aignan. Nous vous suivons. » Amaryllis est la plus âgée des trois. Et cependant, se hâta de dire Saint-Aignan, ce grand âge n'atteint pas 20 ans. Le sourcil de mademoiselle de Tonnet-Charente, qui s'était froncé au début du récit, se défronça avec un léger sourire. Elle est grande, avec d'immenses cheveux qu'elle renoue à la manière des statues de la Grèce. Elle a la démarche majestueuse et le geste altier. Aussi a-t-elle bien plutôt l'air d'une déesse que d'une simple mortelle, et, parmi les déesses, celle à qui elle ressemble le plus, c'est Diane Chasseresse. Avec cette seule différence que la cruelle bergère, ayant un jour dérobé le carquois de l'amour, tandis que le pauvre Cupidon dormait dans un buisson de roses, au lieu de diriger ses traits sur les hôtes de la forêt, les décoche impitoyablement sur tous les pauvres bergers qui passent à la portée de son arc et de ses yeux. « Oh, la méchante bergère !» dit madame. « Ne se piquera-t-elle point quelque jour avec un de ces traits qu'elle lance si impitoyablement à droite et à gauche ?»« C'est l'espoir de tous les bergers en général, » dit Saint-Aignan. « Et celui du berger Amyntas en particulier, n'est-ce pas ?» dit madame. « Le berger Amyntas est si timide, » reprit Saint-Aignan, de l'air le plus modeste qu'il put prendre, « que, s'il a cet espoir, « nul n'en a jamais rien su, car il le cache au plus profond de son cœur. » Un murmure des plus flatteurs accueillit cette profession de foi du narrateur à propos du berger. « Égalité, » demanda madame, « je suis impatiente de voir une main aussi habile reprendre le portrait où Virgile l'a laissé et l'achever à nos yeux. » « Madame, » dit Saint-Aignan, « près du grand poète Virgilius Maro, votre humble serviteur n'est qu'un bien pauvre poète. Cependant, encouragé par votre ordre, je ferai de mon mieux. » « Nous écoutons, » dit madame. Saint-Aignan allongea le pied, la main et les lèvres. « Blanche comme le lait, » dit-il, « dorée comme les épis, elle secoue dans l'air les parfums de sa blonde chevelure. Alors, on se demande si ce n'est point cette belle robe qui donna de l'amour à Jupiter lorsqu'elle jouait avec ses compagnes dans les prés en fleurs. De ses yeux bleus comme l'azur du ciel dans les plus beaux jours d'été tombe une douce flamme. La rêverie l'alimente, l'amour la dispense. Quand elle fronce le sourcil ou qu'elle penche son front vers la terre, le soleil se voile en signe de deuil. Lorsqu'elle sourit, au contraire, toute la nature reprend sa joie et les oiseaux, un moment muets, recommencent leur chant au sein des arbres. Celle-là, surtout, dit Saint-Aignan pour en finir, celle-là est digne des adorations du monde. Et si jamais son cœur se donne, heureux le mortel dont son amour virginal consentira à faire un dieu. Madame, en écoutant ce portrait, que chacun écouta comme elle, se contenta de marquer son approbation aux endroits les plus poétiques par quelque hochement de tête. Mais il était impossible de dire si ces marques d'assentiment étaient données au talent du narrateur ou à la ressemblance du portrait. Il en résulta que, madame n'applaudissant pas ouvertement, personne ne se permit d'applaudir, pas même monsieur, qui trouvait au fond de son cœur que Saint-Aignan s'appesantissait trop sur les portraits des bergères après avoir passé un peu vivement sur les portraits des bergers. L'assemblée parut donc glacée. Saint-Aignan, qui avait épuisé sa rhétorique et ses pinceaux à nuancer le portrait de Galatée et qui pensait, d'après la faveur qui avait accueilli les autres morceaux, entendre des trépignements pour ce dernier, Saint-Aignan fut encore plus glacé que le roi et toute la compagnie. Il y eut un instant de silence qui, enfin, fut rompu par madame. « Eh bien, sire, demanda-t-elle, que dit votre majesté de ces trois portraits ?» Le roi voulut venir au secours de Saint-Aignan sans se compromettre. « Mais Amaryllis est belle, dit-il, à mon avis. « Moi, j'aime mieux Phyllis, dit monsieur. C'est une bonne fille, ou plutôt un bon garçon de nymphe. » Et chacun de rire. Cette fois, les regards furent si directs que Montalais sentit le rouge lui monter au visage en flamme violette. « Donc, reprit madame, ces bergères se disaient... » Mais Saint-Aignan, frappé dans son amour-propre, n'était pas en état de soutenir une attaque de troupes fraîches et reposées. « Madame, dit-il, ces bergères s'avouaient réciproquement leurs petits penchants. « Allez, allez, monsieur de Saint-Aignan, vous êtes un fleuve de poésie pastorale, » dit madame avec un aimable sourire qui réconforta un peu le narrateur. Elles se dirent que l'amour est un danger, mais que l'absence de l'amour est la mort du cœur. « De sorte qu'elles conclurent ?» demanda madame. De sorte qu'elle conclure qu'on devait aimer. Très bien, y mettait-elle des conditions? La condition de choisir, dit Saint-Aignan. Je dois même ajouter, c'est la dryade qui parle, qu'une des bergères, Amaryllis, je crois, s'opposait complètement à ce qu'on l'aimât, et cependant, elle ne se défendait pas trop d'avoir laissé pénétrer jusqu'à son cœur l'image de certains bergers. Amyntas ou Tircis? « Amyntas, madame, » dit modestement Saint-Aignan. Mais aussitôt, Galatée, la douce Galatée aux yeux purs, répondit que ni Amyntas, ni Alphésibé, ni Tityr, ni aucun des bergers les plus beaux de la contrée ne pourrait être comparé à Tircis. Que Tircis effaçait tous les hommes, de même que le chêne efface en grandeur tous les arbres, le lys en majesté toutes les fleurs. Elle fit même de Tircis un tel portrait que Tircis, qui l'écoutait, dut véritablement être flatté malgré sa grandeur. Ainsi, Tircis et Amyntas avaient été distingués par Amaryllis et Galatée. Ainsi, le secret des deux cœurs avait été révélé sous l'ombre de la nuit et dans le secret des bois. Voilà, madame, ce que la dryade m'a raconté, elle qui sait tout ce qui se passe dans le creux des chênes et dans les touffes de l'herbe. Elle qui connaît les amours des oiseaux, qui sait ce que veulent dire leurs chants. Elle qui comprend enfin le langage du vent dans les branches et le bourdonnement des insectes d'or ou d'émeraude dans la corolle des fleurs sauvages. Elle me l'a redit, je le répète. « Et maintenant, vous avez fini, n'est-ce pas, monsieur de Saint-Aignan ? » dit madame avec un sourire qui fit trembler le roi. « J'ai fini, oui, madame, » répondit Saint-Aignan, « heureux si j'ai pu distraire votre Altesse pendant quelques instants. »« Instant trop court, » répondit la princesse, « car vous avez parfaitement raconté tout ce que vous saviez. Mais, mon cher monsieur de Saint-Aignan, vous avez eu le malheur de ne vous renseigner qu'à une seule dryade, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, à une seule, je l'avoue. » Il en résulte que vous êtes passé près d'une petite naïade qui n'avait l'air de rien et qui en savait autrement long que votre dryade, mon cher comte. Une naïade ? Répétèrent plusieurs voix qui commençaient à se douter que l'histoire allait avoir une suite. Sans doute, à côté de ce chêne dont vous parlez et qui s'appelle le chêne royal, à ce que je crois du moins, n'est-ce pas, monsieur de Saint-Aignan ? » Saint-Aignan et le roi se regardèrent. « Oui, madame, » répondit Saint-Aignan. « Eh bien, il y a une jolie petite source qui gazouille sur des cailloux au milieu des myosotis et des pâquerettes. » « Je crois que madame a raison, » dit le roi, toujours inquiet et suspendu aux lèvres de sa belle-sœur. « Oh, il y en a une, c'est moi qui vous en réponds, » dit madame. « Et la preuve, c'est que la naïade qui règne sur cette source m'a arrêté au passage, moi qui vous parle. » « Bah !» fit Saint-Aignan. « Oui, » continua la princesse, « et cela pour me conter une quantité de choses que monsieur de Saint-Aignan n'a pas mises dans son récit. » « Oh, racontez-vous-même, » fit monsieur, « vous racontez d'une façon charmante. » La princesse s'inclina devant le compliment conjugal. « Je n'aurai pas la poésie du comte et son talent pour faire ressortir tous les détails. » « Vous ne serez pas écouté avec moins d'intérêt, » dit le roi, qui sentait d'avance quelque chose d'hostile dans le récit de sa belle-sœur. « Je parle d'ailleurs, » continua madame, « au nom de cette pauvre petite naïade qui est bien la plus charmante demi-déesse que j'ai jamais rencontrée. Or, elle riait tant pendant le récit qu'elle m'a fait qu'en vertu de cet axiome médical, le rire est contagieux, je vous demande la permission de rire un peu moi-même quand je me rappelle ces paroles. » Le roi et Saint-Aignan, qui virent sur beaucoup de physionomies s'épanouir un commencement d'hilarité pareille à celle que madame annonçait, finirent par se regarder entre eux et à se demander du regard s'il n'y aurait pas là-dessous quelque petite conspiration. Mais madame était bien décidée à tourner et à retourner le couteau dans la plaie. Aussi reprit-elle avec son air de naïve candeur, c'est-à-dire avec le plus dangereux de tous ses airs, « Donc, je passais par là, dit-elle, et comme je trouvais sous mes pas beaucoup de fleurs fraîches écloses, nul doute que Phyllis, Amaryllis, Galatée et toutes vos bergères n'eussent passé sur le chemin avant moi. » Le roi se mordit les lèvres. Le récit devenait de plus en plus menaçant. « Ma petite naïade, continua madame, roucoulait sa petite chanson sur le lit de son ruisselet. Comme je vis qu'elle m'accostait en touchant le bas de ma robe, je ne songeais pas à lui faire un mauvais accueil, et cela d'autant mieux, après tout, qu'une divinité, fût-elle de second ordre, vaut toujours mieux qu'une princesse mortelle. Donc j'abordai la naïade, et voici ce qu'elle me dit en éclatant de rire. « Figurez-vous, princesse !»« Vous comprenez, sire, c'est la naïade qui parle. » Le roi fit un signe d'assentiment. Madame reprit. « Figurez-vous, princesse, que les rives de mon ruisseau viennent d'être témoins d'un spectacle des plus amusants. Deux bergers, curieux jusqu'à l'indiscrétion, se sont fait mystifier d'une façon réjouissante par trois nymphes ou trois bergères. Je vous demande pardon, mais je ne me rappelle plus si c'est nymphes ou bergères qu'elle a dit. Mais il importe peu, n'est-ce pas? Passons donc. » À ce préambule, le roi rougit visiblement, et Saint-Aignan, perdant toute contenance, se mit à écarquiller les yeux le plus anxieusement du monde. « Ha 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 ! Les deux bergers, poursuivit ma petite naïade en riant toujours, suivez la trace des trois demoiselles. Non, je veux dire des trois nymphes, pardon, je me trompe, des trois bergères. Cela n'est pas toujours censé, cela peut gêner celle que l'on suit. J'en appelle à toutes ces dames, et pas une de celles qui sont ici ne me démentira, j'en suis certaine. » Le roi, fort en peine de ce qui allait suivre, opina du geste. « Mais, continua la naïade, les bergères avaient vu Tircis et Amyntas se glisser dans le bois, et la lune aidant, elles les avaient reconnues à travers les quinconces. « Ah, vous riez ? » interrompit madame. « Attendez, attendez, vous n'êtes pas au bout !» Le roi pâlit. Saint-Aignan essuya son front humide de sueur. Il y avait dans les groupes des femmes de petits rires étouffés, des chuchotements furtifs. « Les bergères, disais-je, voyant l'indiscrétion des deux bergers, les bergères s'allèrent asseoir au pied du chêne royal et, lorsqu'elles sentirent leurs indiscrets écouteurs à portée de ne pas perdre un mot de ce qui allait se dire, elles leur adressèrent, innocemment, le plus innocemment du monde, une déclaration incendiaire dont l'amour-propre naturel à tous les hommes, et même aux bergers les plus sentimentaux, fit paraître aux deux auditeurs les termes doux comme des rayons de miel. Le roi, à ces mots que l'assemblée ne put écouter sans rire, laissa échapper un éclair de ses yeux. Quant à Saint-Aignan, il laissa tomber sa tête sur sa poitrine et voilà, sous un amer éclat de rire, le dépit profond qu'il ressentait. « Oh ! Fit le roi en se redressant de toute sa taille. « Voilà sur ma parole une plaisanterie charmante assurément et racontée par vous, madame, d'une façon non moins charmante. Mais réellement, bien réellement, avez-vous compris la langue des dryades ?»« Mais le comte prétend bien avoir compris celle des dryades !» repartit vivement madame. « Sans doute, dit le roi, mais vous le savez, le comte a la faiblesse de viser à l'académie, de sorte qu'il a appris dans ce but toutes sortes de choses que bien heureusement vous ignorez, et il se serait pu que la langue de la nymphe des eaux fût au nombre des choses que vous n'avez pas étudiées. « Vous comprenez, sire, répondit madame, que pour de pareilles fêtes on ne s'en fie pas à soi toute seule. L'oreille d'une femme n'est pas chose infaillible, a dit saint Augustin. Aussi ai-je voulu m'éclairer d'autres opinions que la mienne. Et comme ma naïade, qui, en qualité de déesse, est polyglotte, « n'est-ce point ainsi que cela se dit, monsieur de Saint-Aignan ?»« Oui, madame, » dit Saint-Aignan tout déféré. « Et, continua la princesse, comme ma naïade, qui, en qualité de déesse et polyglotte, m'avait d'abord parlé en anglais, je craignis, comme vous dites, d'avoir mal entendu, et fis venir mesdemoiselles de Montalais, de Tonnet-Charente et Lavallière, priant ma naïade de me refaire en langue française le récit qu'elle m'avait déjà fait en anglais. » « Et elle le fit ?» demanda le roi. « Oh, c'est la plus complaisante divinité qui existe. Oui, sire, elle le refit, de sorte qu'il n'y a aucun doute à conserver. N'est-ce pas, mesdemoiselle ?» dit la princesse en se tournant vers la gauche de son armée. « N'est-ce pas que la naïade a parlé absolument comme je raconte et que je n'ai en aucune façon failli à la vérité ?»« Phyllis, pardon, je me trompe. » « Mademoiselle Aure de Montalais, est-ce vrai ?»« Oh, absolument, madame !» articula nettement Mademoiselle de Montalais. « Est-ce vrai, Mademoiselle de Tonnet-Charente ?»« Vérité pure !» répondit Athénaïde d'une voix non moins ferme, mais cependant moins intelligible. « Et vous, Lavallière ?» demanda madame. La pauvre enfant sentait le regard ardent du roi dirigé sur elle. Elle n'osait pas nier. Elle n'osait pas mentir. Elle baissa la tête en signe d'acquiescement. Seulement, sa tête ne se releva point, à demi glacée qu'elle était par un froid plus douloureux que celui de la mort. Ce triple témoignage écrasa le roi. Quant à Saint-Aignan, il n'essayait même pas de dissimuler son désespoir, et, sans savoir ce qu'il disait, il bégayait. Excellente « Plaisanterie, bien joué, mesdames les bergères !»« Juste punition de la curiosité !» dit le roi d'une voix rauque. « Oh, qui s'aviserait, après le châtiment de Tircis et d'Amintas, qui s'aviserait de chercher à surprendre ce qui se passe dans le cœur des bergères ? Certes, ce ne sera pas moi. Et vous, messieurs ?»« Ni moi, ni moi !» répéta en chœur le groupe des courtisans. Madame triomphait de ce dépit du roi. Elle se délectait, croyant que son récit avait été ou devait être le dénouement de tout. Quant à monsieur qui avait ri de ce double récit sans y rien comprendre, il se tourna vers De Guiche. « Eh, comte, lui dit-il, tu ne dis rien? Tu ne trouves donc rien à dire? Est-ce que tu plaindrais messieurs Tircis et Amintas par hasard ?»« Je les plains de toute mon âme, répondit De Guiche, car, en vérité, l'amour est une si douce chimère que le perdre, toute chimère qu'il est, c'est perdre plus que la vie. Donc, si ces deux bergers ont cru être aimés, ils s'en sont trouvés heureux, et qu'au lieu de ce bonheur, ils rencontrent non seulement le vide qui égale la mort, mais une raillerie de l'amour qui vaut 100 000 morts. Eh bien, je dis que Tircis et Amyntas sont les deux hommes les plus malheureux que je connaisse. » « Et vous avez raison, monsieur de Guiche, dit le roi, car enfin, la mort, c'est bien dur pour un peu de curiosité. » « Alors, c'est donc à dire que l'histoire de ma naïade déplut au roi ?» demanda naïvement madame. « Oh, madame, détrompez-vous, dit Louis en prenant la main de la princesse. « Votre naïade m'a plu d'autant mieux qu'elle a été plus véridique, et que son récit, je dois le dire, est appuyé par d'irrécusables témoignages. » Et ces mots tombèrent sur la Vallière avec un regard que nul depuis Socrate jusqu'à Montaigne n'eût pu définir parfaitement. Ce regard et ces mots achevèrent d'accabler la malheureuse jeune fille qui, appuyée sur l'épaule de Montalais, semblait avoir perdu connaissance. Le roi se leva sans remarquer cet incident auquel nul au reste ne prit garde. Et, contre sa coutume, car d'ordinaire il demeurait tard chez madame, il prit congé pour entrer dans ses appartements. Saint-Aignan le suivit, tout aussi désespéré à sa sortie qu'il s'était montré joyeux à son entrée. Mademoiselle de Tonnet-Charente, moins sensible que la Vallière aux émotions, ne s'effraya guère et ne s'évanouit point. Cependant, le coup d'œil suprême de Saint-Aignan avait été bien autrement majestueux que le dernier regard du roi.